France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Damien Manivel. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Claim That Dress de Janis. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui nous fera visiter ce soir la nouvelle exposition du Louvre Lens consacrée au monde souterrain. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jérémy Kaufmann à la prise de son. Bonsoir Damien Manivel.
Bonsoir.
Aujourd'hui est sorti sur les écrans votre nouveau film, L'Île, ce qui me donne cette occasion de vous recevoir pour parler évidemment de ce dernier opus en date, mais aussi pour parcourir avec vous quelques moments importants dans votre vie d'artiste, dans vos vies d'artiste, devrais-je dire, parce qu'il y a une vie, plusieurs vies, même avant le cinéma. Allons dire que vous êtes né à Brest, que vous avez grandi en Bretagne et que vos premières passions adolescentes sont pour les arts martiaux. Le breakdance, vous faisiez partie d'un groupe, vous faisiez des battles, vous faisiez des petits spectacles, mais après avoir obtenu votre bac, vous déménagez à Montpellier, ville chère à mon cœur, pour intégrer une formation professionnelle aux arts du cirque, spécialité acrobatie. Alors à ce moment-là, Damien Manivel, c'est dans l'esprit du breakdance que vous souhaitez faire cette formation. Est-ce qu'il y avait un désir circassien en vous ?
Alors,
c'est loin.
Ah, vous êtes revenu loin là.
Bah oui, on part du départ. Et encore, hein, j'ai épargné l'enfance, l'adolescence.
Ouais, il y avait en tout cas un plaisir du mouvement par les arts martiaux. J'avais, sans le savoir, découvert ce plaisir du mouvement, cette beauté des gestes. Et j'avais aussi 18 ans. J'avais envie de quitter Paris, de vivre ma vie un peu de jeune adulte, et donc j'ai fait cette formation aux arts du cirque, et là c'était une découverte totale. Donc j'ai découvert la danse contemporaine, j'ai découvert le théâtre, c'était une formation pluridisciplinaire et qui était très intense, très dure physiquement, parce que c'était censé me construire en tant qu'acrobate, donc physiquement c'était intense, c'était exigeant. Mais j'en retire du bon, ouais.
Pour autant, il vous manque une nourriture, disons, plus intellectuelle. Vous décidez de vous inscrire à la fac. Vous passez tout de même une audition pour la compagnie Arkaos, qui vous engage. Alors du coup, la fac, ça dure pas longtemps, mais Arkaos, il faut dire que c'est quand même une des compagnies pionnières de ce qu'on a appelé le nouveau cirque, qui réinvente la discipline, qui collabore régulièrement avec des chorégraphes, des metteurs en scène. Mais pour vous, Damien Manivel, comment ça s'est opéré la bascule? Alors, on a dit entre breakdance et cirque, mais carrément là, vraiment vers la danse.
Bah en fait, par la compagnie Arkaos, donc je suis allé habiter à Marseille. Ouais. Et donc là, tout de suite, c'était un monde qui s'ouvrait, vraiment le monde du spectacle. On faisait des tournées, on faisait des créations.
Grosse compagnie, vraiment.
J'étais jeune, j'avais 20, 21 ans. Et je dois avouer que c'était beaucoup. C'était beaucoup d'un coup.
Trop?
Beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai traversé comme je l'ai pu, mais c'était tout à coup, entre guillemets, j'avais un métier. Mmh. Alors que moi, j'avais 20, 21 ans et j'étais dans une logique aussi de découverte. Et donc, j'étais à la fois très fier d'avoir un métier et en même temps, tous mes potes étaient à la fac et il y avait comme ça un décalage que j'ai parfois eu du mal à vivre. Mais en même temps, ça m'a fait au contact d'autres artistes, des chorégraphes, des metteurs en scène. Et tout le monde que brassait Arkaos, j'ai découvert plein de choses. Voilà. Et notamment ce que j'ai découvert, parce qu'on collaborait souvent, donc Guy Carrara, qui est le metteur en scène, faisait collaborer avec des chorégraphes de danse contemporaine, et j'ai fait la rencontre de Sylvie Guillermin, qui est une chorégraphe de Grenoble, qui m'a vraiment initié à la danse contemporaine, Et là, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que la danse contemporaine, plus respectueuse du corps, plus attentive que le cirque, je dirais, en tout cas à l'époque, hein, parce que maintenant le cirque, et, on fait beaucoup plus attention au corps, mais à l'époque, c'était un peu plus bourrin. Et donc la danse contemporaine, ça a été un déclic et un vrai choc esthétique. Et je me suis dit, tiens, j'ai trouvé mon endroit à ce moment-là.
Alors, ce désir de danse, il est aussi nourri par des lectures. On va écouter ici le début de la conférence de Paul Valéry, philosophie de la danse, qui est donnée à l'Université des Annales en 1936, dont le texte est publié dans Œuvre 1, variété théorique, poétique et esthétique, aux éditions Gallimard. Cet extrait lu pour nous par Emma Ruberti.
J'entre tout de suite dans mes idées. Et je vous dis sans autre préparation que la danse, à mon sens, ne se borne pas à être un exercice, un divertissement, un art ornemental et un jeu de société quelquefois. Elle est chose sérieuse, et par certains aspects, chose très vénérable. Toute époque qui a compris le corps humain, ou qui a éprouvé, du moins, le sentiment du mystère de cette organisation, de ses ressources, de ses limites, des combinaisons d'énergie et de sensibilité qu'il contient, a cultivé, vénéré la danse. Elle est un art fondamental, comme son universalité, son antiquité immémoriale, les usages solennels qu'on en a faits, les idées et les réflexions qu'elle a de tout temps engendrées, le suggèrent ou le prouvent. C'est que la danse est un art déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du corps humain, mais action transposée dans un monde, dans une sorte d'espace-temps qui n'est plus tout à fait le même que celui de la vie pratique. L'homme s'est aperçu qu'il possédait plus de vigueur, plus de souplesse, plus de possibilités articulaires et musculaires qu'il n'en avait besoin pour satisfaire aux nécessités de son existence. Et il a découvert que certains de ses mouvements lui procuraient par leur fréquence, leur succession ou leur amplitude un plaisir qui allait jusqu'à une sorte d'ivresse, et si intense parfois qu'un épuisement total de ses forces, une sorte d'extase d'épuisement, pouvait seul interrompre son délire, sa dépense motrice exaspérée.
Alors, on sait combien philosophes, artistes de toute discipline, intellectuels de toute nature ont été fascinés par la danse. On pense à Nietzsche, bien sûr, mais Paul Valéry, pour vous, Damien Manivelle, ça a été marquant?
Ah, je le lisais quand j'étais plus jeune, quand je lisais ses poèmes. Cette conférence, je l'ai beaucoup lu aussi. Lire sur la danse ou que ce soit des philosophes ou des penseurs comme ça ou des poètes, même c'est quelque chose qui m'inspirait. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire en fait. C'est étrange parce que c'est dans les mots, on est loin de la pratique, mais c'est, je sais pas, ça génère des images en fait, ça génère des sensations aussi.
Surtout quand c'est Paul Valéry. Il en dit des choses dans cette conférence. C'était que le tout début, vraiment, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à lire ces textes-là, en effet, et puis dire que votre désir de créer vous-même s'affirme. Vous commencez donc aussi à monter vos propres spectacles, en y insérant de la vidéo, puis en parallèle, il y a une cinéphilie qui se développe. Nouvelle de déménagement. Plein Nord, cette fois, on est en 2006, vous êtes admis au Frénois, Studio National des Arts Contemporains. Vous allez réaliser vos premiers courts-métrages professionnels, dirons-nous. Un beau tutorat, Chantal Ackermann et Andréas Labarthe. Ces années-là, ces deux années au Frénois, ces deux années d'études, comment vous les vivez, Damien Manivelle?
Là aussi, c'était... Donc j'étais danseur à cette époque-là, et le cinéma est arrivé un peu... par effraction et voilà, je me suis dit que j'aimerais faire des films et j'ai réussi à rentrer au Frénois parce que j'avais été danseur avant, c'est-à-dire j'avais pas un cursus de beaux-arts, donc c'était là aussi l'arrivée dans un monde un peu étranger. J'avais pas forcément les codes de langage ni de réflexion qu'ont les artistes contemporains, mais en même temps c'était une plateforme de rencontre et de création absolument géniale, parce qu'en fait au Frénois donc il y avait 2 ans, j'ai fait 2 courts-métrages et j'étais dans le bain directement.
Faut dire qu'il y a tous les équipements, les techniques, montage, c'est... mixage, plateau de tournage, techniciens bien sûr qui vous accompagnent.
C'est vraiment une on va dire, une production, enfin, une façon de produire les films et de construire les films professionnels, quoi.
Complètement.
Vraiment professionnels. Et du coup, le principe étant que on monte nous-mêmes nos équipes, on réfléchit à comment fabriquer, à comment on a un œil sur le budget aussi, sur les repérages. Et je me suis, enfin, je savais déjà, mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais faire, qui m'intéressait. À savoir, voilà, on a une enveloppe, on a peu d'argent, mais comment est-ce que je fabrique un objet artistique avec cette, avec ces contraintes-là, en fait. Et je pense que ça date de cette époque, mon plaisir de mettre en place des projets et de les produire autant que les réaliser, en tout cas de sentir que tout est lié, que l'artistique, l'argent, les relations humaines. Enfin, tout est artistique. En tout cas, tout se retrouve dans le film et tout prend corps dans l'œuvre.
Alors, le premier court-métrage que vous réalisez au Frénois, Damien Ménival, c'est Viril, film sans dialogue, mais avec 7 danseurs quand même. On ne se refait pas tout à fait à ce moment-là. Ouais. Alors, la parole va advenir peu à peu dans vos films, jusqu'à cette île sortie aujourd'hui, alors qui en regorge, mais on verra, c'est un cas un peu particulier, mais... C'est vrai que le silence a quand même une grande place dans votre filmographie. Alors, pour aborder différents aspects de votre façon de faire le cinéma, je vais proposer d'écouter certains de vos pairs pour réagir à leurs propos. On va commencer avec le cinéaste Tsai Min Liang, qui était au micro de Marie Richeux sur France Culture en novembre 2022.
Je pense que les langues, parfois, c'est superflu.
À mon avis, parce que
on peut comprendre tout ce qui est dit, mais est-ce qu'on peut l'accepter? C'est une autre question. Donc, le cinéma en tant que média, c'est quelque chose d'intéressant parce que le regard, il est très important.
Comment
est-ce que les gens peuvent, grâce à son regard, se transformer, s'apaiser? C'est comme si on allait dans un musée. On peut regarder les œuvres exposées et communier avec ces œuvres sans parole. C'est pour cela que je pense que il y a beaucoup de fonctionnalités du cinéma qui ont été négligées par d'autres réalisateurs parce que on peut donner beaucoup de choses aux spectateurs, mais comment toucher leur cœur, leur âme? Les musées nous inspirent beaucoup dans ce sens-là, puisque les gens peuvent aller dans les musées et se rendre compte de la diversité du monde, de la diversité des moyens d'expression et tout. On peut devenir beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert grâce à ce contact. Et c'est pour cela que les musées m'ont beaucoup inspiré. J'essaie de garder des moments de silence dans mes films. Dans les structures, je voudrais montrer la sensation de ce qui est beau, de ce qui est réel. J'espère que le public peut voir la vie telle qu'elle est à travers mes films et ressentir toute la beauté de la vie.
Archive, alors un peu longue, mais parce que le propos de Tsai Min Liang s'y prête et qu'il y a quand même, je pense, beaucoup d'écho avec votre cinéma, Damien Manivelle, mais quand il dit qu'il espère montrer la vie dans toute sa beauté, est-ce que c'est l'un de vos objectifs? Allons-y carrément.
Je l'exprimerai pas comme ça, mais en tout cas je suis très sensible à la question du portrait. Et je dirais que... Enfin, mon objectif... profond en tant que réalisateur, c'est avant tout de faire des portraits. Donc après, je fais des films dans lesquels il y a des histoires qui m'importent, des lieux où il y a beaucoup d'éléments, mais si je dois réduire à l'essentiel ce qui m'intéresse le plus, ce qui me porte, c'est de faire le portrait d'une personne en peintre, d'une certaine façon. Et je sais que à chaque fois sur mes plateaux, enfin sur le plateau de tournage, quand C'est-à-dire, ça arrive souvent, mais quand ça bloque, quand une idée ne marche pas, quand le réel ne veut pas se soumettre un peu à ce que j'ai écrit, je reviens toujours à ça. Je reviens toujours à l'observation de la personne ou les personnes que j'ai choisi de filmer, et ça me calme direct. Et je sais que j'ai quelque chose à faire parce que cette personne, je l'ai choisie parce que je la trouvais belle, parce que je la trouvais intéressante. Et parce que je pense que si je la filme, il va se passer quelque chose. Donc, je reviens toujours à ça quand j'ai un problème de scénario, de mise en scène. Et donc, Tsai Ming-yong, ouais, ça fait écho. C'est l'un des. J'étais pas très cinéphile quand j'étais jeune, mais ça fait partie des cinéastes que j'ai découverts au début de la vingtaine, qui m'ont vraiment marqué parce que je retrouvais vraiment un lien avec la danse, clairement, avec la danse contemporaine. Donc voilà, il y avait Tsai Ming-yong, il y avait Bresson, Roy Anderson aussi. Donc des cinéastes comme ça où la chorégraphie se sent un peu. Ils ne cherchent pas à gommer ce travail de style. Et là, j'étais accroché, quoi, à ce moment-là.
Alors, vous parlez de scénario, Damien Maniven. Il faut dire qu'à vos débuts, alors vous voulez tout bien faire, comme on vous a dit qu'il fallait faire. Scénario, un début, un milieu, une fin, séquencier, des choses comme ça. Et puis, c'est pas tout à fait ce qui vous convient, disons-le comme ça. Mais bon, les bailleurs de fond du cinéma, ils attendent ce genre de choses. Donc, ça vous amène à vous lancer dans l'autoproduction avec votre propre structure, MLD Productions. C'est ainsi que vont naître vos films, dont ce premier long métrage, Le Jeune Poète, sorti en 2015. Là encore une fois, ça part du désir de filmer, en l'occurrence Rémi Tafanel. Vous avez déjà travaillé avec lui, il a envie de. Quoi. Comment ça naît, ce premier long métrage?
C'était un peu une question de j'emploie un gros mot, mais c'était un peu une question de survie. C'est-à-dire que j'étais à ce moment-là en train de donc j'avais fait plusieurs courts-métrages, dont La Dame au chien avec Rémi Tafanel, et qui étaient des courts-métrages qui avaient vraiment bien marché en festival. Donc du coup j'étais motivé, j'étais confiant, mais la question du premier long-métrage, cette question du scénario, de la production et toutes les lourdeurs un peu du système, je les ai découvertes à ce moment-là et j'ai eu beaucoup de mal à les accepter. En bon élève, j'ai essayé de m'accrocher et de bien faire comme il fallait, mais ça résistait. Et surtout, j'avais déjà fait 4 films, 4 courts-métrages, j'avais déjà des méthodes de travail, j'avais déjà des convictions. C'est une période où je les ai un peu tues, ces convictions. J'avais déjà trouvé des choses, en fait. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut coûte que coûte que je me relance, que j'essaie de faire un long métrage, même à l'arrache. J'avais déjà monté cette boîte de production, donc MLD Films. Et Rémi Tafanel donc m'a passé un coup de fil. Je me souviens très bien, j'étais dans le train et il m'a dit coucou Damien, je viens d'avoir mon bac. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un film ensemble?
Ah oui.
Voilà. Et on a tourné 3 semaines plus tard, un truc comme ça.
D'accord.
Voilà. Donc dès le lendemain, j'avais le titre et le lieu, donc 7, Paul Valéry, tourné là-bas.
Nervia.
Et ça s'est tourné cet été-là très rapidement. Mais c'est, quand je dis de la survie, j'exagère un peu, mais il y avait vraiment cette question de où est-ce que je vais mettre mon énergie. J'ai de l'énergie, j'ai des envies, mais je me sens pas inclus dans ce système. En tout cas, je me sens pas le bienvenu. Il a fallu forcer un peu la porte et c'était une expérience très intéressante de faire ce film de cette façon. Donc improvisé, le scénario tenait sur 2-3 pages, c'était 50 situations, je tournais les situations chaque jour et j'en inventais les nouvelles, je barrais celles que j'avais tournées, c'était, vraiment un work in progress, quoi.
Alors, ce jeune poète, ce qui est intéressant quand on le revoit, c'est qu'on voit qu'il y a déjà des thématiques qu'on va retrouver dans les longs métrages suivants. Question, la jeunesse, bien sûr, la solitude, bien sûr. On retrouve ce silence. Alors, on pourrait dire que ce sont des thématiques universelles, très, très communes. Et de fait, mais c'est ce qui est important, c'est votre regard sur ces situations, comme vous le disiez à l'instant. Alors, justement, avant d'en parler, on va rester sur cette question des thématiques en écoutant Éric Rohmer sur France Culture en 96. C'était au moment de la sortie de Contes d'été.
La solitude, c'est quelque chose qui a été éprouvé, je pense, par presque tout le monde, oui. Soit qu'elle soit considérée comme un bien, c'est ce qui peut arriver, soit qu'elle soit considérée comme un mal. Oui, c'est un sujet éternel. Le conflit que je montre dans mes films, eh bien, ce sont des conflits qui peuvent braver le temps, qui ont existé à toutes les époques. Par exemple, le conflit entre la solitude et, au contraire, la pression des autres. Entre le risque de la solitude et le risque de ne pas pouvoir exprimer sa liberté, c'est une chose qui existera toujours.
Voilà, là encore, Damien Manivelle, il y a comme un écho aussi à votre œuvre, ceci que vous traitez de sujets bon, connus, partagés, mais en les filmant, d'une certaine façon, au premier degré, c'est-à-dire en leur accordant toute l'importance qu'ils méritent. Dans la vie, tous les moments sont importants, mais comment faire pour saisir cela sur pellicule, en tout cas les mettre sur grand écran La question de la méthode que vous évoquiez pour ce premier long. Alors, on parlera plus tard de L'île qui est vraiment un cas à part, mais pour les autres films, il y a ces deux, trois pages toujours de scénario, mais qu'est-ce qu'il y a au début du tournage pour les films qui ont suivi Le jeune poète? Il y a une trame qui est comme une sorte d'arc narratif un peu lâche.
C'est ça, ouais. C'est une méthode un peu paradoxale, c'est-à-dire que sur ces films-là, maintenant j'ai peut-être un peu changé de méthode de travail, mais j'ai toujours une structure au départ, une structure qui est fixe, que je vais respecter. Si on prend Le Parc par exemple, je sais que je vais tourner, que le film sera en deux parties. Je sais que la première partie sera entre deux adolescents qui s'aiment puis qui se quittent, et que la deuxième partie, je suivrai juste la jeune fille seule dans le parc la nuit, et qu'il y aura l'intervention du gardien du parc. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je me lance sur le tournage avec cette structure que je vais respecter, qui est décidée. Et ensuite, j'ai comme ça des filets de sécurité. Je sais que je raconte une histoire d'amour, que ça se terminera sur une rupture. J'ai comme ça des points, des étapes, on pourrait dire, que je dois atteindre. Mais ce qui se passe exactement dans les scènes, je le découvre au moment où je tourne.
Y compris les dialogues ?
Y compris les dialogues. Alors il y en a que j'écris. Que je propose, il y en a que j'improvise, il y en a qu'on écrit en direct avec les comédiens, je leur dis de refaire, ou tiens, tu pourrais parler de ton petit frère, ou tu parlais de... Et j'essaye comme ça de mélanger des idées que j'aurais eues et ce que me proposent les comédiens en direct. Et il se trouve que je travaille sur ces films avec des comédiens non professionnels, pour qui il y a un plaisir, je choisis des gens qui ont envie de chercher avec moi. Et pour qui c'est la première expérience, j'essaye de leur mettre aucune pression, d'être le plus amateur possible. Là, peut-être on rejoint un peu Rohmer, c'est-à-dire que si on observe un tournage, un de mes tournages de l'extérieur, quand je fais un jeune poète ou le parc, on est en short, on a un trépied, un appareil photo. On est 4 ou 5 au maximum, et on a l'air d'être une petite équipe d'étudiants. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand les gens nous posent la question. Soit on dit qu'on est étudiant, soit qu'on fait un petit documentaire. En tout cas, ça ne paye pas de mine. Et j'essaye toujours de dire aux acteurs, on va faire une répétition. Parce que c'est la vérité, en fait. Peut-être 300 fois par jour, donc ils sont habitués. Donc je fais un peu des choses qui sont, à rebours de ce... Parce que j'ai très vite compris qu'un réalisateur, c'était quelqu'un qui... Une réalisatrice, c'est quelqu'un qui devait savoir, qui devait rassurer. Et ça m'emmerdait, en fait, d'être dans cette position-là alors que de mentir, en fait. Parce que si je sais pas, je sais pas. Et du coup, si je sais pas, Il y a d'autres énergies qui se mettent en route. Mon équipe, mes assistants, que je fais beaucoup participer à la création. Et voilà, et ils ont appris, tout le monde a appris au fur et à mesure à savoir que quand je dis je sais pas, c'est pas grave, on va fumer une cigarette, et puis je reviens 10 minutes plus tard avec une idée, une proposition.
Mais à vous écouter, des manivelles, je me dis que, alors, s'il n'y avait pas des contraintes économiques, vous pourriez tourner une seule scène des jours durant. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête à un moment donné, que vous vous dites, bon, allez, cette séquence-là, j'ai ce qu'il faut, on va dire.
Bah déjà, il y a quand même un temps, quoi. un temps de travail, un plan de travail. Mais ce qui est étrange, c'est que l'improvisation, on peut penser que l'improvisation est quelque chose d'un peu lâche, d'un peu chaotique, désordonné. Je sais très bien ce que je recherche, en fait. Et ce que je recherche, c'est une émotion. Je cherche à l'atteindre. Mais je l'ai déjà ressenti, cette émotion. Donc au début d'un film, j'ai déjà l'émotion du film, parce que j'ai déjà passé un an peut-être à la traquer à l'intérieur, à visualiser les lieux, à penser aux situations, mais sans savoir précisément ce qui allait se passer. Mais l'émotion, je l'ai sentie. Donc quand je fais la scène avec eux, dès qu'elle arrive...
C'est bon.
Je le sais. Et là, je m'arrête. Je passe à autre chose.
Autre voix, dernière à vous faire entendre pour évoquer une autre récurrence de votre cinéma, on va écouter quand même Robert Bresson, c'est au micro de Michel Pollack en 66 sur France Culture.
Il s'agit de prendre des gens dans la vie qui ne jouent pas, c'est encore une autre chose, parce que vous pouvez prendre des gens dans la vie et qui jouent, on a l'habitude de jouer dans la vie, d'arriver à sortir d'eux, non pas ce qu'ils vous montrent comme ferait un acteur, mais ce qu'ils vous cachent, d'arriver même ce qu'ils ne soupçonnent pas qui est en eux. Voilà, pour moi, quel est le matériau, la matière première du cinématographe. Je dis bien cinématographe en opposition à cinéma, qui pour moi est ce qu'il est en ce moment, c'est-à-dire du théâtre ou du spectacle photographié. Or, il ne peut pas être un spectacle, parce que un spectacle exige la présence en chair et en os. Des deux côtés, exige la présence de spectateurs et l'autre côté d'acteurs ou de personnages agissant comme des acteurs. Je voudrais pouvoir dire des choses sans avoir l'impression de les répéter, mais j'ai déjà dit que le rôle du geste, comme le rôle de la parole dans un film qui serait un film de cinématographe, de vrai cinématographe, serait absolument en opposition au rôle qu'a le geste et qu'a la parole au théâtre ou dans un spectacle. Pour moi, et ce serait admirable si on arrivait à vraiment sentir cela et pratiquer cette façon de faire des films, c'est que le geste et la parole dans le cinématographe ne seraient que des provocateurs.
Alors vous aussi, vous le disiez d'un même niveau, alors de rares exceptions près, qu'on aura peut-être le temps d'évoquer, vous travaillez avec des comédiens non professionnels, ce que vous pensez, et je crois à juste titre, quand je vois vos films, que chaque personne contient une matière cinématographique en elle, mais alors de ce fait aussi, vous vous adaptez à vos interprètes, alors... peut-être davantage d'ailleurs qu'eux ne doivent s'adapter à votre façon de faire. Alors il y a un exemple qui est très évident, c'est pour Takara, La nuit où j'ai nagé, que vous avez co-réalisé avec le réalisateur japonais Kohei Igarashi, parce que là, votre personnage principal est un enfant. Alors donc j'ai lu que, effectivement, vous avez suivi ses humeurs.
Ah oui, c'était extrêmement compliqué. Il neigeait beaucoup. Pareil, c'était un petit tournage. Et on suivait donc Takara qui avait 6 ans à l'époque.
Mais ça vous ressemble, ça, au fond?
Ouais, vous voulez se mettre en difficulté ou...
Oui, et d'être vraiment avec vos interprètes. Je ne vais pas dire modèle, on ne va pas faire comme Bresson, mais il y a de cela. Le film, il se nourrit absolument de ce qu'ils sont.
Ouais, tout à fait. Et j'ai pas de problème à abandonner des idées que j'aurais eues ou parce que pour moi tout est adaptation en fait. Donc il faut être léger, il faut être alerte pour autant dans l'esprit que dans la production, on va dire, pour pouvoir rebondir et voilà, dans le cas de Takara, ce que j'avais déjà dit, c'est quand il était triste, il avait la capacité de faire une scène triste, et quand il voulait jouer, on faisait une scène de jeu. Et il a fallu comme ça le suivre. En même temps, cette méthode, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle, elle chasse l'ego d'une certaine façon. Elle permet de pas se poser les mauvaises questions. Sur un tournage, on peut se perdre un peu. Il y a énormément de soucis à gérer. Quand on a une telle difficulté, c'est-à-dire suivre une nature comme ça, un acteur qui est un peu qui est très humain, mais un peu sauvage aussi, ça nous met tout de suite en face de qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? Qu'est-ce que je veux dégager ? Qu'est-ce que je veux faire avec cette personne ? Qu'est-ce que je veux montrer ? Quels sont ses gestes ? Du coup, ça oblige à être extrêmement concentré et à ne pas se perdre sur des choses anecdotiques.
Alors, on ne parlera pas ce soir des comédiennes que vous avez pu diriger, Agathe Bonitzer, Elsa Voliaston, mais je recommande très vivement de voir Les Enfants d'Isadora et Magdala. Là, c'est encore un autre volet, mais je voudrais qu'on parle de Lille, puisque c'est l'actualité du jour. Pas de star dans Lille. Mais pour nous y amener, votre choix musical, Damien Manivelle, qui s'est porté sur une pièce de William Basinski. Quelques mots sur lui, quand même, avant d'écouter un extrait, parce que c'est une pièce sonore qui dure une quarantaine de minutes. On va peut-être pas l'écouter en entier.
Non, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. J'écoute sa musique pour écrire. Souvent dans la rue, j'observe le monde, les gens, tout en écoutant cette musique. C'est une musique cyclique qui met dans un certain état. Et je m'en suis inspiré pour composer la musique de Lille.
William Basinski qui nous accompagne encore un petit peu. Évidemment, il faut rentrer dans cette musique. Là, on en a vraiment un tout petit goût, mais pour que nos auditrices et auditeurs puissent aller écouter par elles-mêmes, par eux-mêmes, je rappelle, c'est le lendemain de nos émissions. Ils sont en direct, que toutes les informations sont sur la page du site Affaires culturelles. Donc, soyez patients jusqu'à demain matin. Lille. C'est l'histoire de Rosa et de sa bande de copains qui ont décidé de passer la nuit sur l'île, alors qui n'est pas une île, mais qui est un bout de plage qu'ils ont un peu comme annexé. C'est la dernière nuit de l'été, ils ont 18 ans, mais l'île, c'est aussi l'histoire d'un film qu'on a failli ne jamais voir, puisqu'au départ, le projet c'était de tourner un film en plan séquence, c'est-à-dire en temps réel, sans coupe, sans montage, et pour ce faire, donc vous avez réuni au début de l'été, pendant 2 semaines, un groupe de jeunes gens afin d'écrire, de répéter ensemble ce film qui s'inscrivait aussi dans un projet, on comprend bien, quasi chorégraphique. On va en parler, mais pour des raisons encore une fois financière, le tournage n'a jamais eu lieu. Alors comment se fait-il, Damien Manivelle, que malgré tout, soit sorti aujourd'hui en salle un film qui s'appelle Lille?
Comme vous disiez, l'idée c'était de se réunir, de changer de processus de création en fait, d'être plus radical encore et de réunir pendant 2 semaines 7 jeunes comédiens, enfin danseurs, en tout cas des adolescents, une toute petite équipe, et ensemble construire ce film, écrire ensemble, partir d'eux, et raconter cette histoire de cette dernière soirée et donc de cette séparation de Rosa, de son groupe d'amis. Et donc on a beaucoup travaillé, on a travaillé 2 jours, on a travaillé 2 nuits sur la plage, on a enregistré des sessions de discussion ensemble, d'écriture, j'ai dessiné, on a beaucoup engrangé de matière, mais qui était censée être une matière préparatoire à l'écriture d'un scénario et à la préparation donc de ce fameux plan séquence qui aurait dû durer 1h30 et qu'on était censé tourner fin août. Il se trouve que les choses étant de plus en plus difficiles dans ce monde, on n'a pas réussi à trouver même le peu d'argent dont on avait besoin et donc du coup ça a été un abandon du projet pur et simple. J'ai dû le dire à l'équipe, j'ai dû le dire aux comédiens. C'était extrêmement douloureux, autant pour eux que pour moi je pense, et quelques mois plus tard, donc Martin Berthier, qui est mon associé, mon producteur, m'a dit, Damien, essaye de... Parce qu'il avait vu les rushs, en tout cas quelques rushs, et il m'a dit, essaye quand même de...
Parce que vous filmiez ces répétitions.
J'avais tout filmé, ouais. Enfin, on avait tout filmé avec Mathieu Godet. Et... Bon, pour moi, j'avais totalement abandonné, donc j'étais dans un... Je voulais vraiment passer à autre chose, mais en même temps, ça me hantait. J'en rêvais la nuit, je rêvais que j'étais en tournage, et j'arrivais pas à lâcher. Grâce à lui, donc, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux pas faire 10 minutes? Et l'après-midi même, j'ai eu tout de suite l'idée du concept, de la structure, cette structure circulaire qui mélangerait les répétitions, qui abolirait la question de l'espace et du temps, et qui serait pur souvenir, et surtout, qui serait, c'est ce que je me disais à l'époque, raconter coûte que coûte l'histoire que je voulais raconter avec n'importe lesquels des matériaux que j'avais à ma disposition.
C'est-à-dire tous, en l'occurrence.
C'est-à-dire tous, les rushs,
les
plans sonores,
les dessins,
des plans à l'iPhone que les jeunes avaient fait, mes dessins. J'ai hésité même à y mettre les repérages. Enfin, il fallait absolument que j'aille au bout et que je raconte cette histoire. Donc ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le disque dur et j'ai commencé le montage qui a duré 3 mois et j'étais dans ma grotte un peu pendant 3 mois et quand j'en suis sorti, il y avait ce film et la structure basée aussi très inspirée de cette musique circulaire, c'est-à-dire d'une musique qui allie vraiment une mélancolie profonde. Et sur lesquels j'ai mis des images très énergiques, très vivantes, très joyeuses. Et c'est vraiment ce parallèle, je dirais, entre une musique lancinante et triste et cette joie éperdue et éphémère des adolescents que le film travaille en fait en permanence.
Alors ce qui est évidemment paradoxal, c'est que ce film qui devait être un plan séquence est devenu, malgré vous, Damien Manivelle, votre film le plus découpé.
Le plus dialogué.
Est-ce que vous pensez que ça peut vous permettre de reconsidérer votre façon de faire les prochains films? Est-ce que ça pourrait avoir une incidence ou est-ce que c'est vraiment un cas tout à fait à part qui a nécessité, vous l'avez très bien expliqué, cette forme-là? Est-ce que vous avez trouvé du plaisir justement dans cette autre façon de montrer cette jeunesse?
Énormément de plaisir à travailler de cette façon-là, mais en même temps, comment dire, tout était comme un cadeau. C'est-à-dire que moi, j'ouvrais le disque dur, en fait, je découvrais des choses que je n'avais pas vues au tournage, en fait, parce qu'il y a des moments où j'étais pas là, où j'étais occupé à faire autre chose, et Mathieu filmait. Donc, j'ai découvert tout ça 4 mois après. Et c'était comme si quelqu'un m'avait donné un disque dur avec des archives. Il m'a dit, voilà, il y a des jeunes qui font la fête. Qu'est-ce que tu peux raconter avec ça? Donc, un grand plaisir de dans le processus de création, mais pour autant je suis là, le film sort cette semaine, j'ai pas encore analysé. Il faut savoir que c'est un film qui s'est fait avec l'énergie aussi avec une énergie de lutte, de résistance. Il y a quelque chose de politique pour moi dans ce film. C'est une survivance en fait. Mais le problème, c'est que autant j'en suis extrêmement fier, il sort en salle et je vois qu'il est bien accueilli par la presse, et à chaque fois que j'ai fait des rencontres avec le public aussi, il se passe vraiment quelque chose de fort. Mais pour autant, il est quasiment impossible de produire ce genre de film aujourd'hui, et de les diffuser, c'est devenu de plus en plus difficile. Et je suis pas le seul à le penser. Donc ce cinéma-là, évidemment, moi j'ai envie de le faire, j'ai envie de continuer, et j'ai envie de continuer à l'explorer. Mais si on m'en donne pas les moyens, si on nous donne pas les moyens, parce que je suis pas le seul dans ce cas-là, les choses sont difficiles. Donc chaque projet, je dois le... Comment dire ? Il enregistre un moment de ma vie, il enregistre une résistance à un moment donné. Mais il n'y a pas un seul de mes films qui n'a pas été un acte de résistance, même à mon niveau.
Enfin, c'est aussi pour ça qu'on vous invite. Au-delà d'aimer vos films, c'est aussi manifester un soutien total à ce type de démarche. Juste quelques petits mots encore, parce que je reviens à la dimension chorégraphique qui est quand même très évidente dans le film, parce qu'on voit... Puisqu'on voit les répétitions, on voit à quel point vous positionnez les corps dans l'espace, à quel point passer un joint, c'est faire une arabesque. Enfin, il y a quelque chose de là. Là, le danseur, il est pleinement dans le cinéaste et inversement.
Alors, il faut savoir que sur tous mes films, les tournages ressemblent à ce qu'on voit dans l'île. C'est-à-dire que je parle en permanence pendant les prises aux comédiens. Je leur demande de faire tel ou tel geste, de positionner leur tête comme ça, mais en direct. Ou de dire telle chose, mais en direct. Donc ça me donne l'impression de participer, d'être à l'intérieur du film avec eux. Et la seule consigne que je dis aux comédiens, c'est de faire comme si, évidemment de ne pas me répondre, de faire comme si j'étais une sorte de voix off qui planait au-dessus. C'est une vraie galère pour les monteurs son et pour la suite du processus. Mais en gros, la Lille dévoile le processus de création, ça montre comment je travaille. Mais sur tous mes films, les rushs, c'est ça, en gros.
On a le film et le making-of du film. Il me reste à rappeler que ce nouveau film, Lille, est sorti aujourd'hui au cinéma, qu'il va arriver près de chez vous, qu'il est déjà près de chez vous. Donc, guettez les programmations des cinémas alentours pour aller soutenir cette forme de cinéma, la vôtre, Damien Manivelle. Merci d'avoir été notre invité.
Merci infiniment.
France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Espace d'affranchissement et d'autonomie, le club n'en reste pas moins perméable aux logiques masculines de harcèlement. C'est ce que dénonce l'artiste russe Jenis dans le titre « Claim That Dress » qui porte haut et fort le droit de s'habiller comme bon lui semble dans ces espaces du monde de la nuit. Sur fond de drum and bass, façonné à l'IDM, Intelligent Dance Music, la musicienne, désormais installée à Paris, revendique une forme d'autodéfense de la fête. La suite est attendue ce vendredi avec la sortie de l'EP Dive Urgent qui rebâtit la façade de la pop à la façon de la visionnaire musicienne vénézuélienne Arca. Voici Claim That Dress, notre son du jour. Yeah, I could have been me, sicko full and giving up these go off. I chill with my sis, claim that dress and show my fist. Yeah, I could have been me, sicko full and giving up these go off. I chill with my sis, claim that dress and show my fist. Yeah, I could have been me, sicko full and giving up these go off. I chill with my sis, claim that dress and show my fist. Yeah, I could have been me, sicko full and giving up these go off. I chill with my sis, claim that dress and show my fist. Say hi, baby, I'm your piss. Get down, give it to my piss. Stay up and double like your sitters. My lips in the level I miss it. Got a skinky, I'm a tin apple of me. If it's getting on my phone, big bang, ding dong. Never get it out of my throat. Big deal, big time. I pop the checks and I fuck your ex and I go 11. No tense match, like this of heaven. But you'd never go seven twice with second price. And I feel so lonely, turned on. Kiss back, big bones. Baby, cute, get my own. Forget
'Cause I get a bit over.
C'était Claim That Dress de Janis.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours dans le Pas-de-Calais pour découvrir avec vous ce soir la nouvelle exposition du Louvre, ici à Lens. Exposition qui veut explorer les mondes souterrains et nous promet un voyage vers l'obscurité, puis après, on l'espère, le retour à la lumière.
Chers visiteurs, aujourd'hui, à 11h, partez en visite guidée avec un conférencier du musée et découvrez les plus beaux chefs-d'œuvre de la Galerie du Temps. Une visite incontournable. Réservation et place en billetterie.
Très bien, enchanté, bonjour. Et bien effectivement, je suis Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine, directeur du MUDO, Musée de l'Oise à Beauvais, et l'un des trois commissaires des mondes souterrains, l'une des trois têtes de Cerbère.
Alors, le monde souterrain, c'est l'exposition du Louvre-Lens pour cette saison printanière. Est-ce que, avant qu'on rentre dans l'exposition et que vous nous fassiez visiter, vous pourriez nous dire quelles ont été les problématiques et les enjeux que vous avez voulu traiter dans cette exposition ?
Alors, c'est une exposition qui a été voulue il y a quelques années à l'arrivée de Marie Lavandier. En toute logique, le Louvre-Lens étant implanté sur un ancien site minier, la dimension souterraine est vraiment prégnante ici dans l'ADN du musée. Et c'est ce fil conducteur qui a été tiré à l'origine par les équipes du musée. On a souhaité proposer un parcours qui soit véritablement comme un récit, une véritable narration, et voire même un récit initiatique qui permette d'emmener le visiteur à la découverte des différents aspects du monde souterrain, tantôt obscur et effrayant, inquiétant, tantôt merveilleux, lumineux, germinatif. Donc on oscille toujours entre ces deux volets, entre Thanatos et Eros, d'une certaine manière.
Bon, bah maintenant vous nous avez donné envie, on y va ?
On y va. Alors on se retrouve dans ce sas d'introduction, ce couloir d'introduction qui est une évocation de l'antre de la Sibylle, qui était donc dans l'Antiquité gréco-romaine, et bien le refuge, le sanctuaire de cette prophétesse qui, du plus profond des entrailles de la terre, et bien révélait ses oracles aux mortels qui venaient la consulter. Et c'est par cette évocation et cette descente assez douce finalement qu'on invite le visiteur à partir à la rencontre du monde souterrain, de toutes ses réalités et de tous ses habitants aussi, car ils sont nombreux. Alors là, on est entré train de traverser effectivement cet antre de la Sibylle et peut-être qu'on entend derrière moi des bruissements, des bruits de chauve-souris, des gouttes de stalactites, qui tombent des gouttes d'eau qui tombent de stalactites. Donc ici, on descend vraiment à la rencontre de la Sibylle. Et la Sibylle, elle était très importante pour nous. On voulait vraiment que ce soit le personnage introductif qui puisse initier, vraiment au sens propre du terme, le visiteur à ce voyage, puisque la Sibylle, dans l'Antiquité, était cette prêtresse qui résidait sous terre. Elle en était la gardienne des accès au monde souterrain. Et quand on plonge dans la littérature, notamment chez Virgile, dans l'Énéide, c'est elle qui va initier justement Énée au voyage souterrain et lui révéler les secrets de ces mondes invisibles. Le visiteur est un peu comme Énée finalement et il est obligé de partir à la rencontre de cette guide qui va l'initier à l'ensemble des mystères souterrains.
Voilà, changement d'ambiance, on entre dans une salle avec des grands formats de peinture.
Effectivement, ici dans cette première salle, eh bien justement l'idée est de présenter ces différentes réalités du monde souterrain et surtout comment est-ce qu'on accède au monde souterrain et quelles sont les portes d'entrée, les ports de la Terre que l'humanité a pu observer depuis des temps immémoriaux et comment surtout les artistes les ont représentés. On va se retrouver ainsi confronté à des failles, à des gouffres, à des grottes, à des cavernes qui plantent le décor d'une certaine manière et qui dans le même temps interrogent d'un point de vue de l'histoire de l'art puisque par définition ce monde souterrain auquel on accède par des grottes, des cavernes, etc. C'est un monde obscur dans lequel il n'y a pas la lumière du jour et ça pose problème pour le peintre, l'artiste qui veut représenter ces univers. Comment est-ce qu'il le fait ? Eh bien, il va se situer toujours au point de bascule sur le porche d'une certaine manière du monde souterrain, à l'entrée de la grotte, à l'entrée de la caverne et en perspective, je dirais, dans cette première salle, le très grand gouffre de Paul Huet qui nous a été prêté par le musée d'Orsay qui commence à aller plus loin encore dans la réflexion et la découverte puisque ce n'est pas simplement la représentation d'une faille ou d'une caverne. On a certes cet élément qui est représenté, mais on a surtout l'inquiétude générale qui se dessine tout autour avec des cavaliers qui sont apeurés, des chevaux qui piaffent, des oiseaux de proie qui émergent de cette faille, signe que peut-être justement dans ces tréfonds se nichent des choses pas forcément recommandable ou assez inquiétante. On est vraiment dans cette idée d'être dans un parcours qui va être évolutif et qui va aller de l'ombre vers la lumière. Et ici, on entame la descente aux enfers. Dans cette thématique qui nous permet effectivement de descendre de plus en plus profond vers les enfers avec une traversée dans le règne des cauchemars finalement et cette question de l'enfermement, de garder prisonnier sous terre tout ce qui est considéré comme une menace, plutôt que de dire que c'est garder sous terre ce qui est une menace, c'est garder loin de la lumière, en fait, ce qui pourrait créer la disharmonie du monde. On évoque cette thématique avec différentes références aux cachots, aux prisons, aux oubliettes, avec notamment cette magistrale, mais vraiment
magnifique série, mais
magistrale
oui.
Série des prisons imaginaires de Piranèse, qui, alors, sans être stricto sensu, totalement souterraines, sont finalement des représentations fantasmées d'univers carcéraux, privées de lumière, totalement tourmentées avec des agencements de colonnes, de passerelles, de poulies, de choses d'assez fou finalement, qui trahit cette idée que finalement dans un univers invisible, qu'il soit souterrain ou isolé de la lumière, eh bien c'est le meilleur endroit quelque part pour venir enfermer ce que l'on ne peut pas voir, ce que l'on ne veut pas voir, ce qui ne doit pas être vu. On arrive ici dans le royaume des morts avec l'évocation des différents rituels funéraires qui ont été pratiqués de longue date aussi bien dans les civilisations égyptiennes, gréco-romaines et par la suite en Europe dans les sociétés chrétiennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à avoir dans le cadre de cette exposition ce monumental sarcophage, le sarcophage de Sépi prêté par le musée du Louvre, qui est très intéressant puisque à l'intérieur, en plus de la représentation traditionnelle de tout le trousseau nécessaire aux défunts dans les conceptions religieuses égyptiennes, on a la chance d'avoir au fond de la cuve deux cartes qui sont des plans permettant aux défunts d'emprunter la bonne route pour atteindre le royaume d'Osiris et espérer une résurrection. Comme ce décor est peint au fond de la cuve, on a aménagé une petite plateforme sur le côté du sarcophage pour permettre...
On peut monter pour voir, parce que exactement. C'est dans une vitrine de verre, un grand cube de verre. Ah oui, en effet, il y a des petites marches. Et là, on peut voir par-dessus...
Vous avez ici sur la gauche deux lignes, deux cartes, l'une plutôt bleue, l'autre plutôt noire. Des couleurs qui renvoient à une voie maritime, l'autre à une voie terrestre. En gros, on indique au défunt quel chemin il doit emprunter pour être sûr de ne pas se perdre sous terre et être sûr d'atteindre le tribunal d'Osiris. On descendait dans les monts souterrains par l'entrée de la Sibylle, on remonte par le métro qui est présent dans la scénographie. On aimerait que toutes les rames de métro soient comme celles qu'on est en train de traverser. Et on remonte à la lumière avec une conclusion en deux temps d'une certaine manière, liée pour partie au métro, puisqu'on a eu la chance de rencontrer un artiste assez extraordinaire qui s'appelle Fantin Leroux et qui est un voyageur du monde souterrain. Il a une habitude particulière, chacun ses hobbies, de descendre effectivement sous le sol de Paris, dans les galeries du RER, du métro. Il y réalise des petites vidéos, des photographies, et en l'occurrence, il nous a proposé ce qu'il a appelé les constellations, tirées de son traité de cosmologie souterraine, où en fait, on voit qu'il a assemblé dans une espèce de cartographie très très proche de celle des étoiles, des petites billes qui sont en fait des photographies à 360 degrés, qu'il a réalisées en contre-plongée directe depuis ses voyages souterrains dans le réseau parisien, et qui, ici assemblées sur le panneau, dresse là aussi une carte et pose la question, quelque part, puisqu'il y a des étoiles, des constellations au-dessus de nos têtes, est-ce qu'il n'y en aurait pas aussi sous terre? Et c'est ce qu'on pose comme question, est-ce que finalement ce qui est en bas ne serait pas comme ce qui est en haut? C'est une citation qui date du 9e siècle et qui n'est pas une réponse que nous apportons aux visiteurs, c'est vraiment une question qu'on pose ici.
Merci beaucoup pour cette visite, ça donne très envie et de descendre dans les mondes souterrains, mais aussi de remonter.
Oui, complètement.
Merci.
Merci à vous.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, direction 3, dans l'Aube, où nous nous intéresserons à la restauration des vitraux de Notre-Dame.
Merci Marie et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.